Et c'est aussi l'occasion de nous laisser interpeller sur la gestion de l'argent que Dieu nous confie. Quelle part de nos ressources donnons-nous pour l'œuvre de Dieu? Je vous laisse réfléchir quelques instants à cette question. Quelle est la part de nos ressources que nous donnons pour l'œuvre de Dieu? C'est l'occasion ce matin de voir ce que la Bible enseigne par rapport aux dons financiers, par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, comme on dit. Et j'aimerais ce matin vous inviter à cette réflexion en trois temps. Nous allons regarder ce que l'Ancien Testament dit de l'offrande, puis le Nouveau Testament, et enfin nous poser la question « comment donner ?». Et j'aimerais voir avec vous quelques principes de base que l'Écriture met à notre portée. Et j'attire votre attention sur le dernier numéro de la revue Action Missionnaire, qui est la revue de notre union d'église Transmission, qui vient de paraître, alors on ne l'a pas reçu encore, mais vous pourrez le guetter, et qui a tout un dossier sur les finances de l'église. Donc il y a des articles très intéressants, dont un article de notre frère Jonathan Vaughan, qui est déjà venu prêcher ici, et qui a écrit un article sur la dîme, dont je me suis inspiré pour préparer cette prédication ce matin. Que dit l'Ancien Testament de l'offrande? La première mention de l'offrande, après celle de Abel et Caïn, vous vous souvenez, en Genèse chapitre 4, c'est celle, donc Dieu et mes sous, c'est le titre de la prédication. L'offrande dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 14, Abraham donne un dixième du butin qu'il a récupéré dans une guerre qu'il a menée contre quelques rois qui avaient enlevé son neveu, Lot, et il part à leur poursuite, il ramène son neveu, sa famille et le butin, et il donne une partie de ce butin à un roi qui s'appelle Melchisédek. Et on ne sait pas trop qui est ce personnage un peu mystérieux, mais on a là la première mention de la dîme. La dîme, comme le dit ce texte, là dans la traduction Semeur, c'est le dixième des ressources. Et ici, pour Abraham, c'est un geste ponctuel, hein, mais qui est fréquent dans le Proche-Orient ancien. Tous les peuples qui entourent Israël pratiquent la dîme. Ils prélèvent une partie de leurs ressources pour les offrir aux dieux. Par la suite, dans l'Ancien Testament, cette pratique a été codifiée par la loi de Dieu. Et donc je vous propose de nous poser deux questions pour bien comprendre en quoi consiste la dîme. Qu'est-ce que Dieu a prescrit comme offrande à son peuple? Première question donc, c'est qu'est-ce que la dîme? En quoi consiste-t-elle? Et deuxième question, à quoi servait la dîme dans l'Ancien Testament? Nous avons là un texte dans le livre du Lévitique, chapitre 27, qui nous dit « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Si quelqu'un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur. Toute dîme de gros et de menu bétail, c'est-à-dire chaque dixième bête, qui passe sous la houlette, sera consacré à l'Éternel. Le propriétaire ne choisira pas entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, et on ne fera pas d'échange. » La loi que Dieu donne à Moïse, que Moïse transmet au peuple d'Israël, par rapport à la dîme, c'est que un dixième des produits de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire ce que le travail quotidien permettait de produire à l'époque, eh bien un dixième de ces produits est mis à part pour Dieu. Par exemple, le propriétaire d'un troupeau mettait à part une bête sur 10, et vous avez peut-être noté l'expression « tout ce qui passe sous sa houlette hein, », donc il ne choisit pas, et c'est aussi ce que dit le verset 33. On compte les bêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, la dixième bête, on la met de côté, qu'elle soit chétive, qu'elle soit malade, qu'elle soit en pleine santé. Et de cette manière, on ne choisit pas les bêtes, et on verra tout à l'heure que cette prescription, malheureusement, n'a pas été suivie toujours. Et si on voulait garder son bétail, par exemple que si le propriétaire n'était pas très riche, et quand on n'a que quelques bêtes, si on en donne une, c'est beaucoup, on avait la possibilité, la loi donnait la possibilité de racheter cette bête, donc on versait en argent la somme qui correspondait à cette bête, en y ajoutant 20%. Hein, c'est ce qu'on a lu juste avant. Il en majorera le prix d'un cinquième de sa valeur. Donc on pouvait... Il y avait une souplesse, une marge de manœuvre par rapport à cette dîme. L'idée est la suivante. Le peuple de Dieu va entrer dans le pays que Dieu lui a promis, un pays qui est décrit comme découlant de lait et de miel. On retrouve cette expression qui revient souvent et qui signifie que le pays dans lequel Dieu emmène son peuple est un pays riche, un pays d'abondance, un pays de générosité de Dieu pour son peuple. Et donc, cette dîme, ce n'est pas d'abord un impôt ou une façon d'acquérir la bénédiction de Dieu, mais comme on l'a déjà rappelé dans la première partie de notre culte tout à l'heure, c'est parce que Dieu a béni, parce que Dieu fait entrer son peuple dans l'héritage promis, qu'en retour, en remerciement, le peuple offre à Dieu une partie de ses biens. L'offrande, la dîme, dans l'Ancien Testament, c'est donc d'abord un geste de reconnaissance, de remerciement envers un Dieu qui a déjà béni abondamment et plus que nécessaire. Les gens peuvent profiter des 9 dixièmes qui restent pour vivre. L'offrande, la dîme, c'est un merci à Dieu concret qui rappelle au peuple que ce n'est pas par ses propres moyens qu'il a conquis cette terre comme un héritage, mais par la promesse et donc par la grâce de Dieu. Voilà en quoi consiste la dîme. Deuxième question, à quoi servait cette dîme ? Elle servait à deux choses. La première, elle servait aux besoins des membres de la tribu de Lévi. Les Lévites, cette tribu qui exerçait le service au temple, le service du culte. Les Lévites n'avaient pas reçu d'héritage en termes de patrimoine dans le pays de Canaan. Et à part quelques villes, et Dieu dit dans Nombre chapitre 18, aux Lévites, je donne comme possession toutes les dîmes qui seront perçues en Israël pour le service qu'ils assurent, celui qu'ils accomplissent dans la tente de la rencontre. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ils n'auront pas de patrimoine foncier, de propriété, parmi les Israélites. La dîme servait à exprimer une solidarité financière au sein du peuple. Les dîmes servent à nourrir ceux qui organisent le culte pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et on remarquera que les Lévites qui reçoivent ces 10% des récoltes du peuple ne gardent pas eux-mêmes toute cette dîme. Dieu leur demande d'en verser eux aussi une partie. Et dans le même chapitre 18, au verset 26 et suivant, nous lisons « Dis aux Lévites, donc c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, qui s'adresse aux Lévites, « Dis aux Lévites, lorsque vous recevrez des Israélites les dîmes que je vous donne de leur part en guise de possession, vous en prélèverez le dixième, comme offrande pour l'Éternel. Ce sera donc la dîme de la dîme. Et un petit peu plus loin, au verset 29, vous prélèverez la meilleure part comme part la plus sainte. Donc les Lévites reçoivent les 10% que les Israélites prélèvent sur les produits de l'agriculture et de l'élevage. Et sur ces 10%, ils prélèvent la meilleure part, les meilleurs 10%. Donc, vous voyez, chacun est soumis à la même loi de partage, de solidarité, de générosité. Première catégorie de personnes, donc, qui bénéficient de cette dîme, les Lévites. La deuxième catégorie, ce sont les plus démunis. Et c'est ce que dit encore la loi dans Deutéronome au chapitre 26. Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes les récoltes et que tu l'auras distribuée aux Lévites, ça c'est ce qu'on a vu, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété là où tu habiteras, tu déclareras « J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné ». Vous voyez, les Lévites, les immigrés, les orphelins, les veuves. Les immigrés, les orphelins, les veuves, c'était la catégorie sociale la plus démunie, les plus pauvres en général. Et donc le peuple devait se soucier d'eux, non seulement avec de bonnes intentions ou de bonnes paroles, mais aussi très concrètement en pourvoyant à leurs besoins. Et donc la mise en commun de l'offrande, de la dîme, subvenait aux besoins des pauvres. Alors, l'histoire biblique nous montre que le peuple a mis en pratique ses commandements de manière variée. Par exemple, lors de la réforme du roi Ézéchias, Ézéchias remet en place ce principe de la dîme. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 31, Ézéchias ordonna à la population de Jérusalem de donner la part des prêtres et des lévites afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches que leur prescrit la loi de l'Éternel. Sous-entendu, ça ne se faisait plus. Et on peut se demander, c'est intéressant, s'il n'y a pas un lien entre le fait que les prêtres n'étaient plus payés et le fait que le culte rendu à l'Éternel, la morale du peuple, s'éloignait de ce que prescrivait la loi de Moïse. Et dès que l'ordre d'Ézéchias fut publié, les Israélites apportèrent en grande quantité les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et tous les produits agricoles. Ils apportèrent aussi la dîme de tout en abondance. Il y a là une générosité qui s'exprime au sein du peuple et qui, semble-t-il, s'était perdue au fil des années, parce que quand on oublie la loi de Dieu, eh bien, on pense plutôt à soi qu'aux autres. Malheureusement, quelques siècles plus tard, ces bonnes résolutions, au temps du règne du roi Ézéchias, ont de nouveau été oubliées. Et au temps du prophète Malachie, Dieu fait des reproches à son peuple. Il leur dit « Quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal ? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal ? Offrez-le donc à votre gouverneur, vous verrez s'il est content de vous. Vous fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. » Et pourtant, certains font des offrandes et des sacrifices, mais pourquoi ? Dieu dit « Je n'ai aucun plaisir en vous, je n'accepte pas l'offrande de vos mains. » Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on comptait les bêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne choisissait pas. Et là, que font les membres du peuple ? non seulement ils comptent, mais ils choisissent. Et ils gardent pour eux-mêmes les bêtes les plus belles, les plus robustes, celles qui vont se reproduire et assurer le patrimoine de la famille. Et puis les bêtes malades, les bêtes chétives, ça c'est bon pour Dieu. Ça c'est bon pour la dîme. Dieu attend de son peuple qu'il donne toute la dîme. Toutes les dîmes. C'est ce que Dieu dit aussi au chapitre 3, verset 8. Un homme peut-il voler Dieu ? Réponse, non, évidemment. Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé ? Et la réponse de Dieu vient, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. On choisit les bêtes et on offre les bêtes misérables à Dieu. Et puis au verset 10, Dieu dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Et ce verset que vous aviez peut-être en tête quand on a commencé à parler de la dîme, Dieu qui dit, de cette façon-là, donc quand on apporte la totalité de ce qui est dû au Seigneur, « Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Dieu attend de son peuple qu'il donne toute l'adoration qui lui est due. Et pas seulement ce qui nous arrange de lui donner. Et vous voyez que la louange, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement des chants et des prières, c'est aussi une part de ses biens matériels. Alors, il faut faire attention à la manière d'utiliser ce genre de verset. Certains peuvent prendre ce verset de Malachie 3:10 pour dire, vous voyez, il faut faire un pas de foi, et si vous donnez, Dieu va vous rendre, Dieu va aussi ouvrir pour vous les écluses des cieux et vous couvrir avec surabondance de sa bénédiction. Et on peut interpeller Dieu de cette manière pour demander à Dieu la prospérité financière, la santé, la réussite sociale et matérielle. Mais ce n'est pas tout à fait le sens de ce verset. Dieu est ici en quelque sorte en procès avec son peuple pour lui dire « Vous me volez, vous me manipulez ». Et donc si Dieu dit « Je suis prêt, moi, à ouvrir pour vous les écluses des cieux », ce n'est pas pour remettre une espèce de négociation donnant-donnant avec son peuple. C'est pour dire à son peuple « Mais lâchez prise, laissez-moi agir, ne vous inquiétez pas ». Je veille sur vous. Comptez sur moi. Ce n'est pas à vous de décider de ce que vous allez recevoir. C'est moi qui vous le donne. Alors la question qu'on pourrait se poser à partir de ces textes est, est-ce que cette offrande, cette dîme que l'on trouve dans l'Ancien Testament, est le modèle de notre offrande matérielle aujourd'hui ? Et donc pour répondre à cette question, il nous faut regarder maintenant ce que dit le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous avez déjà lu en entier les évangiles. Le thème de l'argent, c'est le thème qui est le plus abordé par Jésus. Dans les évangiles, Jésus parle souvent d'argent. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, texte que nous avons médité il y a quelque temps au groupe de quartier, « Lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. » Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres fassent leur éloge, que ton aumône se fasse dans le secret. Vous remarquez peut-être que Jésus dit « Lorsque tu donnes quelque chose » et non pas « Si jamais il te vient l'idée de donner quelque chose. » lorsque tu donnes quelque chose. Pour Jésus, être généreux, ce n'est pas une option. Un petit peu plus loin, dans ce même évangile selon Matthieu, chapitre 6, un texte que nous a rappelé notre frère Lies dans la prédication dimanche passé. Vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et l'argent, c'est Jésus qui parle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire la nourriture et le vêtement, vous seront données en plus. Jésus s'est souvent opposé aux pharisiens, pour des questions de théologie, mais aussi pour des questions financières. Par exemple, dans Luc chapitre 16, Jésus reproche aux pharisiens d'être amis de l'argent, d'aimer l'argent. Et le « vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et l'argent », ça s'adresse aux disciples du Christ, mais aussi à ceux qui sont là auditeurs de Jésus sur la montagne, peut-être parmi eux quelques pharisiens. Jésus a parlé beaucoup d'argent, et pourtant, il ne parle pas de la dîme. Le mot « dîme » n'apparaît quasiment pas dans le Nouveau Testament, et l'on ne trouve aucun commandement à son sujet. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, l'auteur rappelle l'histoire d'Abraham, dont nous avons cité tout à l'heure un verset dans Genèse 14, quand Abraham offre 10% de son butin au roi Melchisédek. Donc là, il utilise le mot dîme pour rappeler cet épisode de Genèse 14. C'est, d'après mes recherches, la seule évocation positive de la dîme. Les autres fois où le Nouveau Testament emploie le mot dîme, c'est plutôt de façon négative. Par exemple, dans Matthieu chapitre 23, Jésus reproche aux pharisiens en disant: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier le reste. Là, on a dans ce verset une trace des traditions ou des règles qu'on avait ajoutées à la loi de Dieu. Cette dîme prélevée sur les herbes aromatiques, ça n'est pas dans la loi de l'Ancien Testament. Mais c'est des règles qu'on avait ajoutées pour être sûr de ne pas désobéir à la loi de la dîme. Le problème, c'est qu'on décourageait les gens avec ce genre de règles parce que c'était impossible de mettre en pratique tout cela. Et Jésus a parfois reproché aux pharisiens d'imposer ces règles aux autres alors qu'ils ne les mettaient eux-mêmes pas en pratique. Jésus rappelle donc ici le cœur de la loi et l'esprit de la loi. Si vous voulez prélever 10% de votre brin de menthe, pas de problème. Mais si vous faites cela et que vous oubliez la justice et la bonté, vous vous trompez d'obéissance. De même, dans une parabole que Jésus raconte au chapitre 18, où il oppose le comportement d'un pharisien qui prie à haute voix et qui se vante devant Dieu d'être un bon croyant, et d'un péager, un collecteur d'impôts, qui s'humilie devant Dieu, Jésus met dans la bouche de ce pharisien cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine, et je donne 10% de tous mes revenus. » La dîme. Et là, ce pharisien est montré en mauvais exemple de quelqu'un qui se vante de ses bonnes actions pour s'attirer la faveur de Dieu. Très peu de versets nous parlent donc de la dîme en tant que telle. Par contre, il y a de nombreux textes qui évoquent une solidarité financière et matérielle, des offrandes, des collectes. Regardez le nombre de textes où Paul parle aussi de questions d'argent, de questions de collecte, quand il y a eu cette famine à Jérusalem pour montrer une solidarité entre églises. Paul a encouragé les églises à donner de leur argent, de leur bien matériel pour soutenir les églises sœurs. Paul a été lui-même avec cette collecte et s'assurer que les fonds arrivaient bien. Et il est apôtre. On pourrait se dire, il ne s'occupe pas des questions matérielles, mais si, c'est très important. Ce sont aussi des questions spirituelles. On voit par exemple, dans l'évangile selon Luc, plusieurs femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. C'est ce que Luc nous dit au chapitre 8. Et dans le livre des Actes, on voyait que les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Le principe d'égalité qui a été évoqué tout à l'heure. On retrouve ici le principe de l'offrande qui pourvoit aux besoins de la communauté. Et on se souvient aussi de Actes chapitre 6 où les veuves étaient aidées matériellement par l'Église et où l'Église choisit des personnes pour servir aux aspects pratiques de la vie de la communauté. Dans 1 Timothée chapitre 5 versets 17 et 18, ce sont les responsables de la communauté qui sont visés. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » Vous comprenez l'image là, de bœuf avec sa muselière. Si on met une muselière au bœuf qui tire la charrue au champ, eh bien, il ne peut pas profiter de ce travail pour grignoter. Donc, on enlevait la muselière pour que, tout en travaillant, le bœuf puisse manger quelque chose pendant son travail. Eh bien, Jésus reprend ce texte de l'Ancien Testament en y ajoutant une parole, Paul reprend ce texte de l'Ancien Testament, en y ajoutant une parole de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc, et pour dire que les responsables de l'Église qui travaillent doivent aussi se nourrir. Et les offrandes de la communauté servent aussi aux responsables de la communauté. On retrouve le même principe que nous avons vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament par rapport aux Lévites, aux prêtres. Que dire alors de ces données du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament ? Je dirais simplement en une phrase, avant de passer à quelques principes, le Nouveau Testament met en cause le pourcentage. Il n'est plus question, apparemment, d'un pourcentage fixe qui soit ordonné par la parole de Dieu. Par contre, on retrouve dans le Nouveau Testament les principes qui étaient déjà là dans l'Ancien, à savoir la générosité des croyants, donc des chrétiens dans le Nouveau Testament, pourvoir aux besoins des membres de la communauté, en particulier des plus démunis, pourvoir aux besoins des responsables qui travaillent pour le Seigneur. Alors, troisième temps, si on n'a pas de montant précis, obligatoire, qu'est-ce qu'on donne ? Donner, oui, mais combien ? Et là, j'aimerais rappeler avec vous l'exemple de Jésus. C'est Paul qui le rappelle en 2 Corinthiens chapitre 8. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus nous a donné un exemple. Il s'est offert lui-même pour nous. Il était dans la gloire de son Père, il avait tout ce qu'il voulait. Et Philippiens 2 nous dit qu'il s'est humilié, qu'il s'est abaissé pour venir auprès de nous. Jésus est notre modèle en ce qui concerne l'offrande. Paul, un petit peu plus loin, reprend ce principe en disant que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un peu l'esprit qui animait le peuple d'Israël au temps d'Ézéchias, et où on a remis en place l'offrande. Les gens étaient contents de donner, et si vous vous souvenez, le texte dit qu'ils ont donné avec abondance. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Dieu nous donne non seulement ce qui est nécessaire pour vivre, mais il nous donne un peu plus, beaucoup plus pour certains, afin que nous puissions être généreux. Et nous voyons ici dans ce texte qu'être généreux, c'est aussi une question, le fruit d'une décision, et une décision que l'on prend avec joie. Je vous propose l'équation mathématique suivante. Une joie confiante en Dieu, ne vous inquiétez de rien, dit Jésus, une joie confiante en Dieu, plus de la gratitude, égale générosité. Joie confiante, plus gratitude, remerciement, égale générosité. Dieu aime quand nous donnons joyeusement. Et ce principe est plus large que l'offrande matérielle. C'est la vie tout entière des disciples de Jésus-Christ qui est concernée. C'est ce que Paul dit aussi dans l'Épître aux Romains. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, tout ce qu'il a décrit dans les 11 premiers chapitres de la lettre, cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel ou un culte raisonnable, selon les traductions. L'offrande, le culte qui plaît à Dieu, c'est notre vie tout entière. Et donc, si l'on se dit, bon, je donne un peu de mon argent à Dieu, vous vous souvenez du titre « Dieu est mes sous », entre guillemets. C'est une formule un peu rapide. On devrait dire « Dieu est les sous qu'il m'a confiés ». Parce que le dixième que je vais donner, par exemple, appartient à Dieu. Les 9/10 que j'ai pour moi appartiennent à Dieu tout autant. Et Paul ajoute à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, y compris quand vous faites une offrande, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous avons en Christ une grande liberté. Et cette liberté est aussi la liberté de donner joyeusement. Paul disait tout à l'heure que nous sommes appelés à donner sans regret ni contrainte. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, sans regret ou sans tristesse, dans notre traduction, ni contrainte. Je me suis dit, je serais peut-être triste ou j'éprouverais du regret si ce que je donne me coûte trop affectivement, au point de regretter. Bon, j'ai fait un don, mais la prochaine fois, je garde pour moi. Ou alors j'ai donné là, mais bon, je vais attendre un peu quand même, voilà. Peut-être sommes-nous appelés à progresser dans ce domaine, apprendre à donner sans tristesse, sans regret, mais avec joie. La joie s'oppose au regret, la joie s'oppose à la tristesse. Mais remarquez que la joie s'oppose aussi à la contrainte. Qu'est-ce que c'est la contrainte? C'est quand on se met une pression, ou quand quelqu'un d'autre nous met une pression pour donner telle somme, pour fixer un taux, un pourcentage. Par exemple, donner pour ne pas perdre la face, ou donner par sentiment de culpabilité, parce qu'on ne veut pas décevoir Dieu. Voilà des contraintes. Alors, il y a une contrainte qui est bonne, c'est la discipline. Offrir à Dieu une partie de nos biens, ce n'est pas une option. En tout cas, d'après ce que Jésus a l'air d'enseigner, et Paul aussi. Mais, donc il y a une discipline qui est bonne dans l'offrande. Mais de là, ce que cela devienne contraignant, culpabilisant, là, il y a un problème. La joie s'oppose à la contrainte. Pas à la discipline, mais à la contrainte. Je me souviens d'une histoire que nous avait racontée un de nos professeurs à la faculté de théologie, il y a déjà quelques années. Il était allé dans une église aux États-Unis, c'était il y a déjà quelques dizaines d'années. Et le moment de l'offrande arrive pendant le culte, et il nous explique que le moment de l'offrande a duré bien plus longtemps que celui de la prédication. Et voilà, il y a quelqu'un qui sonne de la trompette pour annoncer le moment de l'offrande. Et puis, il y a des chants, il y a des histoires qui sont racontées, qui font rire, d'autres qui tirent une larme. Et voilà, tout le monde est dans l'ambiance de l'offrande et arrive le moment de passer les corbeilles. Et le pasteur, en tout cas celui qui était responsable de la collecte, dit, voilà, je vais traduire les dollars en euros, comme ça, ça va nous parler un peu plus, hein. Si vous mettez un billet de 100 euros dans la boîte, on criera « Alléluia ». Si vous mettez un billet de 50 euros, on dira « Amen ». Et si vous mettez un billet de 20 euros, on dira « Merci ». Voilà. 10 euros, 5 euros, 1 euro, on n'en parle même pas. Hein. Voilà. Et donc il expliquait que pendant 20 minutes, on a entendu des « Alléluia », des « Merci », des « Amen » dans l'assemblée. Alors ça nous fait sourire ou rire, ou peut-être pleurer parce que c'est dans l'église. C'est peut-être pas toujours si éloigné de nos propres sentiments par rapport à l'argent, je ne sais pas. Mais on a là un moyen de pression sur les croyants, hein, parce que il est tentant d'avoir envie de recevoir un Alléluia plutôt qu'un simple merci. Et vous voyez que cette façon de faire est très éloignée des paroles de Jésus et de l'Évangile. Nous l'avons lu tout à l'heure, hein. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Là, on faisait exactement l'inverse. C'est à se demander si on avait lu l'Évangile. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette journée, aujourd'hui, est une occasion de nous replacer devant Dieu par rapport aux questions d'argent. Et je terminerai en disant que si la dîme n'est apparemment plus prescrite dans le Nouveau Testament, elle demeure, me semble-t-il, un bon point de repère pour notre budget personnel. Ceci dit, l'essentiel n'est pas dans le pourcentage, mais dans la manière dont nous gérons devant Dieu et avec l'aide de son esprit les aspects matériels, financiers de nos vies, en particulier nos offrandes. Je reprends la question que je vous posais tout à l'heure. Quelle part de votre budget consacrez-vous à l'Église, à l'œuvre de Dieu, de manière générale? Je crois que ces paroles de l'Ancien comme du Nouveau Testament et ces principes de générosité, de joie, doivent nous aider à progresser. Que Dieu nous rende confiant en lui, lui qui nous dit ne vous inquiétez de rien, qu'il nous rende joyeux et qu'il nous rende généreux pour son royaume. Amen. Amen.
On va prier.
Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi. Tu connais nos pensées, tu connais notre cœur, tu connais les moyens financiers que tu nous as confiés. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à faire le tri, que ton esprit fasse du tri dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est jamais simple de parler de questions d'argent, de réfléchir aux questions d'argent parce qu'elles viennent nous toucher très profondément. Elles nous interpellent sur la manière dont nous tenons et parfois retenons les biens matériels, l'argent, même si nous en avons peu. Seigneur, apprends-nous à bien utiliser les biens que tu nous confies. Que notre relation avec l'argent soit basée sur la joie et sur la générosité, plutôt que d'essayer de nous enrichir sur cette terre, alors que nous devons être riches pour ton royaume.
Amen.
Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos budgets de famille et dans nos budgets d'église. Veille sur nous pendant cette journée, en particulier cet après-midi, alors que nous parlerons du budget de Synergia, et puis la semaine prochaine, dans le budget de notre association culturelle. Toutes ces choses sont là devant toi. Tu nous les as confiées, aide-nous à être des bons gestionnaires, des serviteurs fidèles, fidèles en peu de choses. Aide-nous à être honnêtes et à placer toutes ces questions d'argent devant toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, et nous te prions qu'au nom du Christ, tu nous aides à avoir plus confiance en toi pour pourvoir à nos besoins et à discerner la manière dont tu veux aussi que nous utilisions le superflu pour venir en aide à d'autres, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci, à Sylvain. Pour achever cette prédication, donc ce culte, pardon, nous allons terminer avec un dernier chant. Ouais. Dieu, ta fidélité, c'est le J'aime 400. Qu'est-ce qu'il entend ?
Moi, je ne peux pas
vous dire. C'est moi qui l'entends. Dieu, ta fidélité
va jusqu'au milieu. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Il est
déjà une bonne semaine, mais on va partager avant de partir notre repas. Merci à tous.
On essaye de faire chorale pour pas
il faudra se dépêcher. Oui, je sais.